Think tank.
Zennlustig.
Reflexion. Sport und Staatsbürgerschaft.
Sport à občanství.
Euradio Nantes vous présente Sport et citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne.
Bienvenue sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du think tank Sport et citoyenneté. Aujourd'hui, nous aborderons le thème du sport et de l'identité des clubs. Cette émission sera animée par Thibaut Dumas, qui est journaliste pour le think tank Sport et citoyenneté, et moi-même chargée de communication pour le think tank. Nous recevons comme invités quatre membres actifs de l'association à la Nantaise, Florian Le Teuf, son président, Lucas Rondel, qui est économiste et directeur de recherche au CNRS, Clément Guillot, chargé des études comparatives sur l'actionnariat populaire en Europe, et Marjorie Sparfel, qui est chargée des questions juridiques de la création d'une SAS. Ensuite, nous accueillerons parmi nous Jean-Jacques Derrien, administrateur de l'Institut Kervégan, Antonia Heigemann, chargée du développement européen à Supporters Direct, et Joachim Lamert, docteur à l'université de Chemnitz et porteur du projet sur le fair play financier et la bonne gouvernance à l'UEFA.
Avec nos intervenants, nous évoquerons plusieurs grandes problématiques liées à ce sujet d'actualité. Peut-on favoriser l'identité européenne grâce au sport? Une régulation européenne en faveur de l'actionnariat populaire est-elle envisageable? Quels avantages et quelles limites peut-on tirer de l'actionnariat populaire? Quel est le rôle des pouvoirs publics dans la régulation des dérives financières liées au sport professionnel? Quels pouvoirs détiennent les fédérations internationales et les associations locales pour développer une gouvernance responsable et durable? Nous essaierons de répondre à ces questions à travers l'exemple de Supporters Direct, qui accompagne les supporters de football dans leur projet d'actionnariat populaire, de l'association à la Nantaise, porteuse du premier projet d'actionnariat populaire français et d'une enquête réalisée par l'UEFA sur le fair play financier. Accueillons Antonia Heigemann de Supporters Direct qui interviendra tout de suite en anglais. Antonia Heigemann, let me thank you first of all for being with us today by phone.
Good evening. Thank you very much for the invitation.
Our pleasure. Could you please introduce yourself and present us, Supporters Direct, your structure?
Okay, I'll be very brief. Supporters Direct was formed in 2000 as part of a discussion about, well, resolving some of the problems the government at the time had with English football. There were a lot of financial difficulties amongst English football clubs. What we do is we're advising groups of supporters on how to represent their fans through what we call supporters' trusts. It's sort of non-profit, democratic supporter cooperatives who hopefully acquire a shareholding in their football club or run their football clubs completely. We have done that in more than 170 cases, so we helped setting up 170 of such supporters' cooperatives. We have over 300,000 members, and we're now working in Europe in over 20 countries. And what I do in particular is I work with supporters groups such as à la Nantaise in over 20 countries, and the work that we do is funded by UEFA.
Could you explain us this concept of a supporters ownership?
Yes, of course. Well, what we believe that financial sustainability, ownership, and governance are all interlinked. And as you probably know, there's a pretty bad track record of well-run football clubs across Europe. Most of the clubs in the Italian First Division are bankrupt or into administration. The same counts for the Spanish and the same counts for the English clubs. So basically the idea is that a football club is basically more than just a business. It's important to too many people to be in the hands of just a few. And I think we all agree that there's a huge social and cultural aspect of football. It's not just about the team on the pitch or the ground. It's more than that. It's an identity to a lot of people. And we believe that stakeholder involvement, which is part of good governance, is really important in football. And on the other hand, there's a really good track record of members-run football clubs, which function pretty good. Could you
be more specific on the difference in Europe between the system like socios in
sure.
Spain and maybe fans ownership in other countries?
Sure. Well, the model that we believe is the most ideal model is the one of football clubs run as members associations. That's the model we know in Spain, for example, at Barcelona or Real Madrid, although in Spain there are only four clubs that are run on that basis. Most of the clubs in the German Bundesliga, for example, are run on that basis, which means that you can become a member of your football club and you take part in democratic elections to decide who's going to be on the board of the club or the supervisory board of the club.
We have a specific rule in Germany, which is the 50 plus 1, right?
Yeah, that is, this rule forbids people to, it doesn't allow people to buy football clubs. The idea in Germany is that for once football clubs are social entities, and on the other hand they believe that that model could be endangered if, let's say, a Scheich with a lot of money could come in and buy a football club and treat it like a toy. At the same time, in Germany, they realize that these football clubs are sort of middle-sized businesses, and maybe the structure of a pure members' associations isn't adequate in terms of governance and how the club should be run, although that can be discussed. So the idea was to make it sort of open to investors to buy not more than 49%. The rest is still owned by the members. It's a bit more difficult than that, but I try to explain it as easy as possible. So that's the model that we think is ideal, but only if there's also a really good licensing and regulatory system around all of this. The ownership alone doesn't make or break a football club. It's much more than that. What we mean by fan ownership is...
You were mentioning it right now, right just a few minutes ago. What is for you a sports club identity exactly, to be more specific?
Right. Well, I guess it's a different thing for a lot of people, but I think what you can agree on is, first of all, the name club indicates that it should have members. In most clubs, that is actually not the case. The biggest stakeholder group in football are the fans, and very often they don't have a say in the club. By having a say, I'm not saying that I want you to become the president of my club, but I want to be involved in the decision-making and at least be able to vote for that person. The club is, as I said, a social and cultural institution, which means a lot to a whole community. A club is not just 90 minutes on the pitch. It does, hopefully, a lot of community work with schools, senior people, homeless people, does projects with regards to health and educate young people. And all of these aspects are working much better for clubs that are members-run than those that are run by a single owner. We did a study last year which sort of looked at the community outreach football clubs have here in England. And the study found that the community outreach of members-run football clubs, or where fans have a say in the running of the club, is much bigger than in those clubs that are owned by one single person.
So it's wider than just sport. It's something about European identity, right?
Absolutely. And that's possibly part of the reason why the European Commission supports one of our projects where Alla Nantese is involved as well, which sort of combines a lot of groups in these countries trying to do the same, which is having an influence in the running of their clubs. And the reason why the Commission supports this and also the European Parliament thinks that this is a really good thing is that it sort of adds value. We sort of promote democracy, not just in football, but with regards to a whole community. The idea is for the community to participate in football and learn values such as transparency, participation, democracy, and so on.
Thank you very much for your answers, Antonia Hagman from Supporters Direct. It was really a pleasure and interesting. Nous enchaînons tout de suite avec une petite pause musicale. C'est Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Et nous nous retrouvons dans quelques instants pour le débat.
I do. my eye. Girl, I never loved one like you. Pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you.
Citoyenneté.
Vous êtes de retour sur le plateau de Sport et Citoyenneté. Nous parlons aujourd'hui d'actionnariat populaire notamment et de plus globalement de l'identité des clubs de football. Nous venons juste d'avoir en direct une interlocutrice de Supporters Direct. Pour résumer un peu son propos, elle disait que l'identité d'un club ne se résume pas au sport, mais que c'est beaucoup plus large que ça. Que c'est une structure qui a trait au culturel, à l'éducation sur un territoire, etc., etc. Et que malheureusement aujourd'hui il y avait quelques difficultés à ce niveau-là, mais que Supporters Direct était un des modèles qui émergeait en Europe, avec notamment l'idée d'avoir un actionnariat populaire, comme cela existe notamment en Allemagne. Elle a bien appuyé sur l'exemple spécifique de l'Allemagne, sachant que l'Espagne, le système des socios, est un peu à part. Nous sommes en plateau avec Florian Le Teuf de l'association à la Nantaise. Bonjour Florian.
Bonjour.
Et nous sommes également avec Jean-Jacques Darien de l'Institut Carvegan.
Bonjour.
Donc nous allons un peu rebondir sur ce qui a été dit à l'instant dans cette interview. Tout d'abord, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement de cette idée de sport qui va bien au-delà de simplement un match pendant 90 minutes ?
Oui, alors au sein de la Nantaise, effectivement, on défend cette idée-là que le football, bon, c'est plus qu'un sport finalement, c'est un élément patrimonial, c'est un élément culturel, c'est un vecteur d'éducation, de formation, de cohésion sociale et d'intégration. Donc nous, on fait le constat, on en discutait tout à l'heure avec Jean-Jacques, c'est bon, le FC Nantes par exemple, il est constitutif de l'imaginaire de la ville et on croit en ces valeurs-là.
Donc peut-être rebondir sur le FC Nantes, Jean-Jacques Darien, parce que c'est un club qui s'est construit aussi sur une identité un peu particulière. Vous avez une expérience assez ancienne de rapport, on va dire, avec le FC Nantes depuis à peu près les années 60, au milieu des années 60.
Oui, effectivement, ça c'est le privilège peut-être d'un âge un peu plus avancé que la moyenne des membres de cette table ronde. J'ai effectivement, à la fois en tant que, et en tant que Nantais, un rapport FC Nantes, comme beaucoup de gens, je pense, à Nantes, très fort, et c'est pour ça que la dimension patrimoniale m'est particulièrement, me parle particulièrement, parce qu'effectivement, tout au long de ces années, il s'était créé un lien spécifique entre le FC Nantes, au-delà de l'activité strictement du match des 90 minutes, et le territoire.
Qu'est-ce que ça serait un peu cette identité, si vous deviez la résumer ?
Je pense qu'effectivement, quand l'association a pris le titre de à la Nantaise, elle renvoyait à une forme de jeu. Je connais en particulier quelqu'un, Gilles Ampillon, qui en parle particulièrement bien. Ce jeu renvoyait aussi, quelque part, à un comportement assez général dans la société nantaise, d'une façon de voir les choses qui, finalement, renvoyait à une dimension assez collective, avec l'idée que les choses ne pouvaient pas se faire toutes seules et par quelques-uns, malgré les talents qui peuvent exister, dans leur coin. Et donc c'est un petit peu une dimension, je pense, que ce territoire porte, et le FC Nantes était un peu à cette image.
Vous parlez de collectif, Jean-Jacques. Peut-être que Florian, vous pourrez nous présenter l'association à la Nantaise, qui défend également ces valeurs-là.
Oui, la Nantaise s'est créée en mai 2010. On rassemble actuellement un peu plus de 2000 adhérents réunis effectivement autour de ces valeurs-là. L'idée que l'individu, au sein du FC Nantes, c'est l'individu qui se met au service du collectif, et c'est surtout pas l'inverse. Effectivement, on défend certaines valeurs, celle de la formation, celle du jeu, celle de l'idée de construire ensemble des actions collectives. On est attaché à tous ces principes qui ont fait la notoriété du FC Nantes par le passé, qu'on voudrait retrouver à l'avenir.
Et pouvez-vous développer peut-être votre projet d'actionnariat populaire, définir tout d'abord ce qu'est l'actionnariat populaire pour vous, et ensuite comment vous souhaitez le développer au sein du FC Nantes ?
Alors, à la Nantaise porte le premier projet d'actionnariat populaire du football français. On essuie un petit peu les plâtres en France. On s'efforce de faire de la pédagogie pour expliquer que effectivement, c'est quelque chose qui se développe un peu partout ailleurs en Europe. C'est un système qui est porteur de valeurs pour définir une gouvernance plus responsable, plus durable, une gouvernance citoyenne et démocratique du football professionnel. Alors, on n'a pas la volonté de racheter le FC Nantes, hein, c'est pas envisageable. Tout simplement, on veut compléter le capital du club, accueillir le futur actionnaire majoritaire du FC Nantes pour l'accompagner, lui permettre de reconstruire le club à partir de ses valeurs, celles qui ont fait sa notoriété et sa force. Et voilà, construire collectivement un club différent.
Et quel lien vous rapproche avec Supporters Direct ?
Nous sommes membres affiliés de Supporters Direct, qui nous apporte son expérience, son expertise. Supporters Direct a permis à nombreux consortiums comme le nôtre de mettre leurs projets en pratique. Et ils vont effectivement nous apporter cette aide précieuse. Ils nous ont permis notamment d'obtenir un financement de la part de la Commission européenne, qui nous apporte énormément en termes de notoriété. C'est un label qui nous crédibilise énormément.
Vous parlez de financement européen. Quels sont les objectifs que vous devez atteindre suite à ce projet ?
Alors, nous avons obtenu un financement de la part de la Commission européenne grâce, c'était dans le cadre d'un projet coordonné par Supporters Direct, qui va nous permettre de bénéficier de séminaires de formation et qui va nous permettre de produire une étude de faisabilité destiné à permettre à d'autres consortiums comme le nôtre de réaliser des projets d'actionnariat populaire pour être au cœur du dispositif et avoir leur mot à dire dans le cadre des processus de décision de leur club.
Florian Letoff, vous êtes plutôt humble parce que maintenant, à la Nantaise, c'est la première association nantaise en termes de nombre d'adhérents. Mais j'ai envie de faire rebondir Jean-Jacques Darien sur cette notion d'implication des citoyens nantais. Parce qu'on voit que le rapport à la ville de Nantes et à l'identité de cette ville a fluctué avec le club au fil de l'histoire. Est-ce que vous pourriez peut-être être plus spécifique sur cette notion d'identité d'un club par rapport à la population concernée, en quelque sorte ?
Ce sera surtout un témoignage personnel, je ne prétends pas avoir une analyse exhaustive en la matière. Moi, je pense réellement qu'il y a eu, et cet attachement qui s'est développé au fil du temps, il y a eu donc un fort développement du lien entre la population et l'FC Nantes, lorsque le FC Nantes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, renvoyait l'image d'un jeu collectif, d'un jeu construit, de valeurs, on va dire, assez humanistes au bout du compte. C'est vrai qu'il y avait un contexte, le football, on n'évolue pas seul dans un monde comme celui du football, et le FC Nantes n'est pas seul dans son coin, donc c'était déjà le cas avant et maintenant non plus, donc on ne peut pas transformer tout seul ce genre de réalité, et on ne peut pas rêver à un retour vers le passé, mais c'était, je pense, au fil du temps, quelque chose qui s'est approfondi. Je vois pas, je pense que à travers... Je vois pas vraiment de césure dans les différentes périodes, c'est-à-dire à travers les différents titres, que ce soit de championnat, de Coupe de France. Et d'ailleurs, ces titres ont été remportés, y compris les deux derniers, en 95 et 2001, à des moments où il y avait encore ces valeurs de portée. Et le lien du public avec le club, je crois, a été très fort tout au long de ces périodes. Il n'y a pas eu vraiment de césure. Il y a peut-être eu une spécificité, malgré tout, mais qui n'est pas que nantaise, c'est effectivement le dialogue avec les clubs du supporter constitué, qui n'existait pas au tout départ de la même façon et qui est un rapport aux supporters différent de celui de qui renvoie des gens plus individuels qui se sentent appartenir à la communauté du FC Nantes sans forcément être membre d'un club de supporters.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction aujourd'hui avec Nantes, ville très dynamique qui accueille beaucoup de population et un club plutôt morose et une relation plutôt complexe avec ce club aujourd'hui? C'est l'impression que ça donne en tout cas.
Alors, tout le monde n'aime pas forcément le football et donc la question pourrait être inversée en disant peut-on avoir une ville dynamique sans un grand club de football? Actuellement, des villes comme Strasbourg ou Grenoble peuvent se le poser aussi. Moi, je pense que dans le cadre de l'histoire de Nantes par rapport à son club de football, c'est vrai que ça reste, à mon sens, une incongruité d'avoir ce club qui se cherche dans le ventre mou de la Ligue 2, alors que je pense que ça fait partie de la dynamique nantaise d'avoir un club du type du FC Nantes au plus haut niveau.
Merci beaucoup. Nous allons switcher sur Clément Guillot, qui fait son stage à l'association à la nantaise et qui va nous parler un petit peu des comparaisons des différents types d'actionnariat populaire dans différents pays européens. Bonjour Clément.
Bonjour.
Pouvez-vous peut-être étayer un petit peu, nous raconter votre étude?
Oui, alors avec mes quatre camarades de l'UIT et moi-même, on a fait une sorte de benchmarking. En fait, on a été voir ce qui se passait à l'étranger pour essayer de voir si on pouvait le ramener au contexte nantais. Donc on a étudié des clubs comme Hambourg en Allemagne, Barcelone en Espagne, Arsenal en Angleterre et puis le Biarritz Olympique en France, qui est un peu spécial aussi. Et on a essayé de voir ce qui était positif et ce qu'on pouvait ramener au contexte nantais.
Pourquoi le Biarritz Olympique est spécial ?
Parce qu'au fil de notre étude, on s'est rendu compte que le Biarritz Olympique, en fait, les supporters n'ont aucun pouvoir dans le club, aucun droit de regard, en fait. C'est des donateurs, en fait. On peut les appeler comme ça, ouais, des donateurs, qui donnent au club une certaine somme d'argent et en échange, le club leur offre la possibilité de rencontrer les joueurs, mais ça s'arrête là.
Et qu'a révélé votre étude sur les socios espagnols ?
On s'est rendu compte qu'à Barcelone, c'était la référence en termes d'actionnariat populaire, mais le contexte est spécial parce que ça s'est formé à un moment où l'argent n'était pas encore roi dans le football comme il peut l'être aujourd'hui. Et puis c'est le contexte aussi de l'époque, c'était au moment de la dictature où tous les libres penseurs et antifranquistes se sont ralliés à Barcelone. Ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a 160 000 socios, c'est irréalisable à Nantes, évidemment.
D'accord. Pour le cas d'Hambourg, les supporters détiennent 100% du club, il me semble. Oui. Pouvez-vous développer votre étude sur Hambourg ?
Alors, Hambourg, on a pas beaucoup de chiffres, mais en fait, le contexte allemand est spécial aussi, puisque en Allemagne, tous les clubs sont obligés d'être détenus au minimum à 51% par leurs supporters. Et Hambourg, en fait, c'est la spécificité d'Hambourg, c'est qu'il est détenu à 100% par ses supporters, qui sont aujourd'hui quand même pas moins de 50 000 personnes actionnaires du club.
D'accord, très bien. Et concernant le cas d'Arsenal ?
Alors Arsenal, il y a les petites spécificités comme dans chaque club. Donc Arsenal, c'est la spécificité, c'est que le club est coté en bourse, sauf que la valeur nominale de l'action du club est de 10 500 livres. Donc c'est inaccessible pour un supporter lambda. Et en fait, une organisation qui s'est mise en place, c'est qui a eu pour but d'acheter des parts du club en bourse et de les diviser en 100 sous-actions, si je puis dire, d'une valeur du coup de 105 livres, donc beaucoup plus accessible pour les supporters. Donc les supporters en fait souscrivent à cette organisation en payant une cotisation, un droit d'entrée de 20 livres et en cotisant tous les mois un minimum de 10 livres tous les mois, et là, leur argent est mis sur un compte jusqu'à ce qu'ils réunissent 105 livres pour avoir une fan share, ce qui leur permet d'avoir un certain pouvoir au sein de... un droit de regard au sein du club d'Arsenal. Et je crois qu'il représente aujourd'hui les supporters environ 3% du capital du club d'Arsenal.
Florian Leteuf, rapidement, si vous deviez choisir un modèle entre ceux qui ont été cités là.
Alors effectivement, le modèle des socios, c'est celui qu'on connaît le plus en France. Médiatiquement, c'est pas ce modèle-là dont on souhaite s'inspirer. On s'inspire beaucoup finalement du modèle allemand. La ligue allemande finalement impose au club d'être détenu en grande partie par les supporters, par ceux qu'ils aiment. C'est un gage de bonne gouvernance et de gouvernance responsable et durable. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup.
Sachant que ces nouvelles possessions de clubs par des milliardaires, comme c'est un peu en vogue aujourd'hui, notamment du côté du PSG ou de Monaco, questionnent un peu votre modèle aussi. On y reviendra en fin d'émission, je pense. Mais tout de suite, on va écouter un peu de musique avec Who's the Racket.
Citoyenneté.
Willkommen, Dr. Lammert. Wir werden mit Ihnen über das finanzielle Fairplay-Projekt von der UEFA sprechen. Damit ein Maximum von Zuhörern uns verstehen kann, werden wir auf Englisch reden. So, good evening, Dr. Lammert.
Good evening, and thanks for me and for the nice welcome.
let me welcome you on board, but also sincerely thank you for being there with us to exchange on sport and identity. Could you please introduce yourself and present us what is a good governance project?
Well, I work for a chair on sports sociology and sport management. And I have done a PhD in business management and especially the areas of accounting and governance. Mm-hmm. Therefore, having moved to the area of sports science, my research interest is in league-oriented and club-specific governance. And the project you mentioned deals with UEFA financial fair play regulations that aim to preserve the attractiveness of European professional football. So with the survey we have conducted, we are interested in the views of football fans have on this concept and how they think the financial fair play regulations maybe could even be further improved.
Okay, and what is your role in this project?
I'm conducting it together with our shareholder, Professor Hovemann, and a former student of us, Stefa Komsalov.
Okay, and what do you think about fans ownership? What are your first results and hypotheses on these European countries and as regards club governance?
Yeah, from a German perspective, I'm glad that we have a regulation ensuring fan ownership, although the regulation, which is called 50+1 rule, is not ideally designed, having some shortcomings. Strongly appreciate the supporters movement being put forward by supporters direct, especially in England, but also in other European countries. And now, as I've appreciated to hear, also with Alain Nantes in France. To put it in general, I think supporters' influence on their clubs has many different aspects, positive aspects. On the one hand, of course, one should mention that supporters are important for their clubs regarding the realization of their sportive goals via their support in the stadium. And say a businessman would say that supporters are important as customers, buying tickets and merchandise articles and therefore increasing the economic performance and indirectly the sportive performance of their clubs. But we think that fans are actually far more than that. From our perspective, they are the emotional owners, so to say, of their clubs. Having an interest in their club, which is huge in its extent. So from this background, I would argue that it feels quite natural that owners should have ownership or influence on their club, and I think that on their emotional properties, so to say again, and I think that could have generate a positive influence as fans actually care about their club 7 days a week.
Okay.
And also, to come back to the first point, as we empirically have found out, influence on your club generates a positive identification with the club, which then, again, could be helpful regarding the support in the stadium and the economic things that I've mentioned. And but these, again, are just economic arguments. I guess that sociologists probably could put forward further arguments speaking for fan ownership
and influence, especially from a sociological perspective.
But do you have any idea to explain the huge gap between European countries and especially why France is lagging far behind?
Well, within our survey, we have experienced a lot of participation from English, German, Spanish and Italian supporters, but unfortunately less participation from supporters from France. Our perception is that the French football fans are less organized in governance issues, and that the fan influence is less accepted by French clubs, because we have undertaken the same efforts in all of these mentioned countries. We have contacted every club from the European Club Association, and we got a huge support regarding the distribution of our survey by the fan organizations Supporters Direct and Football Supporters Europe. So, as I said, same efforts in every country, but unfortunately less participation in France. That brought us to these assumptions.
Okay.
But if you ask me, I'd say that is going to change when time is passing by, and as we are now experiencing the first supporters trust in France, I guess that is not going to be the last, and with the help of your organization, Sport Citizenship, Sport and Citizenship, within a couple of days we are going to undertake a new initiative to get more participation
Thank
to
you.
Our survey in France.
And finally, could you let us know which connection you see between fan ownership and the financial fair play principle developed by UEFA?
I think there are many connections. The first and most important to mention is within our financial fair play survey, we found that the regulations, financial fair play regulations, are very much supported of football fans throughout Europe. Within the different objectives of the financial fair play regulations, I would like to mention two connections separately. The one is, for the first time, the financial fair play regulations regulate what we would call financial doping, and therefore helps to ensure fair competitions. And the second very important point is that financial fair play regulations, in addition to the existing licensing regulations, help to ensure the financial stability of football club.
Thank you, Dr. Lammert, for having shared with us your knowledge. Thanks to you, we have explored some other relevant aspects of the debate.
À noter que le 25 janvier, l'UEFA organise une journée sur le fair play financier, et ça se passe donc à Nyon. Nous allons tout de suite accueillir par téléphone également Luc Arondel, qui est économiste, directeur de recherche au CNRS et également membre de la Nantaise. Ils sont partout, décidément. Luc Arondel, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, que pensez-vous de l'intervention de Joachim Lammert sur cette notion de fair play financier qu'on peut relier au supporterisme populaire, à l'actionnariat populaire?
Alors d'accord. Donc moi, effectivement, j'ai plusieurs, plusieurs casquettes, hein, plusieurs écharpes. Donc je suis économiste, je suis aussi donc amateur de football et aussi supporter du Football Club de Nantes. Donc d'abord, ma casquette d'économiste. Alors effectivement, ce qui est intéressant dans l'aspect donc, du fair play financier, c'est qu'il essaie d'établir donc, ce qu'on appelle en économie donc des règles, une régulation sur le fonctionnement du football, notamment pour que le modèle donc soit durable, quoi. C'est vrai que si on s'interroge un petit peu sur la situation actuelle du foot business, comme on dit, eh bien on peut être quand même, comme le reste de l'économie, on peut être un peu inquiet. Parce que si on regarde l'évolution du foot, hein, de la fin du 20e au début du 20e siècle, il colle à peu près à l'évolution qu'a eu l'économie mondiale, hein, donc sur la même période. Quoi. Il y a eu une liberté des hommes et des capitaux. Hein, donc je vous rappelle, vous en avez peut-être parlé durant l'émission, l'arrêt Bosman qui a changé énormément de choses. Hein,
est-ce que vous pourriez être plus spécifique sur l'arrêt Bosman?
Pardon?
Est-ce que vous pourriez expliquer un peu l'arrêt Bosman? Est-ce que
oui,
ça a changé économiquement?
C'est un arrêt européen donc, qui a été donc édicté en 1985. Avant l'arrêt Bosman, donc, les clubs étaient limités donc, à trois joueurs étrangers, hein, y compris européens. Et bon, après l'arrêt Bosman, donc il n'y avait plus cette limite donc, aux trois joueurs donc, de la communauté européenne. C'est-à-dire que depuis 1995, vous pouvez faire jouer autant de joueurs donc, européens dans la même équipe. Ce qui fait que, bon, par exemple, l'Inter de Milan a gagné la Coupe d'Europe donc il y a quelques années avec aucun ressortissant italien. Donc effectivement cette règle a eu énormément d'impact en termes de marché par exemple au marché des joueurs, puisque on est passé d'un marché national à un marché continental. Hein, donc ce qui a énormément changé les choses, puisque bon, on en reparlera peut-être à propos du FC Nantes tout à l'heure, mais la conséquence la plus visible, ça a été par exemple l'inflation des salaires des joueurs. Quoi. Donc, on a vu effectivement, on voit aujourd'hui des salaires des joueurs qui sont sans commune mesure avec les salaires qu'on pouvait observer dans les années 80. Par exemple, un très bon footballeur bon, du temps du grand FC Nantes dans les années 80 touchait à peu près 2500 euros par mois en valeur actuelle. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, Anelka à Shanghai, il va toucher plus de 200 000 euros par mois. Donc on est dans un monde complètement différent.
Quoi. Je crois qu'il y a Jean-Jacques Darien qui veut réagir sur ce salaire-là de 2500 euros en plateau. Il me fait non du doigt.
Non, je ne veux pas contredire un spécialiste à l'antenne, donc c'est un piège qui m'est tendu. Non, il me semble malgré tout me rappeler qu'effectivement, dans les années 80, on a déjà assisté à une première étape du dérapage sans commune mesure avec... et notamment, j'ai souvenir de joueurs comme José Touré.
Oui, voilà, c'est José Touré, mais si vous... Bon, peut-être c'est avant les années 80, si vous voulez.
Oui.
Mais c'est vrai que le début, ça a été effectivement le départ de José Touré de Nantes à
Monaco.
Monaco.
Hein. Oui.
Mais revenons-en peut-être au modèle économique qui est un peu en vogue aujourd'hui, parce que le problème que vous venez d'évoquer, c'est que les marchés sont continentaux, voire internationaux aujourd'hui, notamment pour les joueurs, mais aussi pour la possession des clubs, tout simplement. Alors, comment fait-on quand ce sont les fédérations nationales qui sont chargées de réguler financièrement ces clubs? On pense par exemple à la DNCG en France.
Voilà, c'est ça. Donc, ce qui différencie, par exemple, si on se situe au niveau européen, effectivement, les règles de gestion des clubs sont différentes dans les différents pays. Quoi. Et donc, effectivement, un des objectifs donc, de ce fair play financier, c'est d'homogénéiser les règles dans les différents pays, parce qu'on voit qu'effectivement, différentes réglementations européennes conduisent à différentes performances au niveau des clubs. Hein. Alors, si vous regardez, par exemple, une chose dont on entend parler beaucoup aujourd'hui, c'est l'endettement. Alors, effectivement, la crise aujourd'hui, c'est la crise économique, c'est une crise des dettes. Hein. Dette d'abord des particuliers donc en 2008. Maintenant, aujourd'hui, c'est la dette des États. Mais si on regarde les clubs de foot, eh bien, on s'aperçoit que l'endettement des clubs a atteint des sommes colossales. Quoi. L'UEFA, donc, dans une étude récente, a chiffré donc, l'endettement des clubs globalement à 15 milliards d'euros. Donc,
mais justement, parlons un peu de futur. Si une réglementation est mise en place au niveau européen pour contrer cet endettement, c'est-à-dire un fair play financier, en quoi c'est favorable à l'actionnariat populaire?
Ah bien, favorable à l'actionnariat le problème, c'est que actuellement, bon, ce sont les clubs dont les chiffres d'affaires qui obtiennent les meilleurs résultats. Quoi, donc, le problème, c'est que si vous ne mettez pas de règles, effectivement, on va assister à une concentration ce à quoi on assiste actuellement. Hein. Alors, est-ce qu'on veut, effectivement, donc se diriger vers un championnat à l'espagnol où il n'y a plus que deux clubs, etc. Alors bon, je dis pas que pour le spectacle c'est mal. Manière, on se dirige peut-être plus vers un sport spectacle qu'un véritable sport, quoi, parce qu'effectivement ce qu'on regarde c'est plutôt la qualité du spectacle, etc. Donc, alors je vais en venir justement au niveau de l'actionnariat populaire.
Très rapidement, s'il vous plaît, parce que.
Il y a une déconnexion il y a eu un éloignement entre les supporters et leur club. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on se sent plus proche de. On se sent de moins en moins proche de son club parce que bon, les gens sont à des niveaux de rémunération complètement incommensurables avec ce que vous pouvez connaître. Il y a aussi un éloignement donc, social. Un éloignement géographique, et donc finalement on finit par supporter des clubs qui ne sont pas forcément des clubs locaux. Quoi. Donc l'actionnaire populaire, si on met des règles, on reviendra peut-être effectivement à des choses beaucoup plus raisonnables et à des. Je vous rappelle que finalement la principale recette des clubs actuellement, c'est donc les recettes de médias, les recettes donc les apports que mettent les manias, etc. etc.
On va y revenir dans notre dernière partie, on va reparler de sport, spectacle et de manias. Mais s'il vous plaît, on va juste terminer donc sur ce point-là, on y reviendra après cette petite pause musicale. Et c'est Sophia Loranians, c'est comme ça que ça se dit, ce Sophia Loranians.
Citoyenneté.
De retour sur le plateau de Sport et Citoyenneté, nous parlons d'actionnariat direct aujourd'hui, c'est-à-dire de supporterisme populaire. Est-ce qu'on peut dire ça, actionnariat ? Je me mêle un peu les termes là, mais c'est ça.
D'actionnariat populaire, voilà,
populaire. C'est le terme qu'on emploie. Mais c'est une sorte d'actionnariat un peu direct aussi, qui implique les supporters directement, si on peut résumer un peu la chose.
Voilà, on prône une implication du public, des amateurs de sport, dans les processus de décision des clubs, nous en l'occurrence le FC Nantes.
Donc vous venez d'entendre Florian Le Teuf, qui est président même de Hala Nantaise, donc association qui promeut ce type de gouvernance de club. Nous sommes également avec Jean-Jacques Derrien, de l'Institut Kervégan. Et nous allons revenir sur cette notion sur laquelle nous avons un peu travaillé juste avant la petite pause musicale, sur l'identité des clubs aujourd'hui, qui sont très liés aux médias, qui sont très liés aussi à une émotion des populations, des spectateurs, des téléspectateurs, qui agissent parfois même plutôt en consommateurs. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là avec votre projet, dans le sens où vous allez plus impliquer les supporters, donc plus impliquer une masse plus importante de population? Est-ce que les clubs ne vont pas être soumis à justement des aléas plus importants par rapport à ça? Demander des joueurs incroyables pour des transferts, être déçus aussi peut-être?
Alors nous, au sein d'Hala Nantaise, on prône effectivement une implication du public, des supporters, des amateurs du club dans le cadre des processus de décision, mais on prône une implication avant tout responsable et démocratique, à l'image finalement des amendements qui ont été proposés par le député européen Ivo Belette, des amendements qui ont été votés par le Parlement européen, qui prône justement une implication active des supporters pour promouvoir justement ce rôle social et démocratique des amateurs de sport. C'est vraiment ces principes-là, ces principes éthiques qui nous animent pour une implication responsable et citoyenne du public dans le...
Certaines personnes pourraient penser qu'il peut avoir un risque de laisser les mains d'un club entre les mains de supporters. Qu'en pensez-vous ?
Alors nous, justement, on explique à l'inverse que le risque, c'est de considérer qu'un club de football, qui est un constitutif de l'imaginaire de la ville, peut être laissé entre les mains d'une seule personne, d'un investisseur qui va le considérer un petit peu comme son joujou et qui va en faire ce qu'il veut. Nous, au contraire, on explique qu'un club de football, et surtout à Nantes, ça doit être un élément collectif. C'est un élément du patrimoine de notre ville, de notre région. Et on prône donc une implication collective et responsable de tous ceux qui l'aiment dans les processus de décision. C'est justement, c'est ça qui nous anime.
Jean-Jacques Derrien, nous avons parlé tout à l'heure de l'investissement des clubs de personnes russes ou des Émirats arabes qui investissent de sommes astronomiques dans bon nombre de clubs européens. Quelles conséquences cela peut-il entraîner sur l'identité d'un club, l'identité nationale ? Qu'en pensez-vous ?
Alors, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à l'identité nationale, sinon ça va nous emmener sur des terrains un peu difficiles. En tout cas, ce qui me paraît évident, c'est que l'évolution lourde, et notamment l'intervention de milliardaires russes ou de fortunes des Émirats pour l'essentiel, mais on pourra trouver aussi peut-être maintenant aussi en Chine des situations comparables, change complètement le rapport à l'identification par rapport à un territoire. Je pense qu'il y a un vrai décalage, alors qui ne se voit pas encore totalement, car on a encore des phénomènes de foule, de supporters dans les clubs possédés par de tels financiers. Mais je pense qu'à terme, la situation sera vraiment dramatique. Je reviendrai sur un terme qui a été utilisé par Joachim Lammert, c'est celle de propriétaire émotionnel. Ça me paraît vraiment une expression intéressante qui pose question, parce que c'est à la fois positif pour aller vers un actionnariat populaire dans les clubs, puisqu'on peut dire qu'il y a un investissement de ces supporters qui peuvent se sentir justement par le biais de l'émotion potentiellement investi dans un club. Inversement, on sait que les émotions répondent souvent à des sollicitations pas toujours très très simples ni très avouable et des utilisations détournées, et notamment c'est bien l'émotion qui est au cœur de l'action des médias par rapport aux supporters, et comme cette action des médias est une des principales raisons de l'augmentation des budgets des clubs, on voit bien qu'il y a une contradiction entre les deux aspects.
Joachim Lamert parlait même de supporters comme la moelle d'un club. Est-ce que c'est encore réaliste, cette idée de moelle d'un club, quand on voit aujourd'hui, justement, cet argent arriver, Florian Letoeuf ? Est-ce que, par exemple, le rachat du PSG ou de Monaco, j'en parlais tout à l'heure, ne met pas totalement à bas votre projet, pour être très clair ?
Alors, on pense au contraire que d'autres modèles sont possibles. Justement, on est un petit peu... un autre modèle qu'on veut porter, celui de l'argent roi, c'est pas forcément quelque chose qui nous fait rêver. Et on prône plutôt un club qui serait différent, qui serait dominé par d'autres principes. Un club qui serait dominé non pas par l'argent, par le cynisme, par la suffisance, mais un club qui serait dominé par des valeurs, par l'intelligence, par des principes. Nous, justement, on prône une implication raisonnée des supporters dans le dispositif du club, dans les processus de décision. Les principes, on les a énumérés dans une charte qui s'appelle le Pacte Arribas, qui retrace et qui grave dans le marbre les grands principes qui ont fait la force du FC Nantes et qu'on voudrait retrouver à l'avenir. Ce sont des principes et des valeurs sportives et extra-sportives qui fondent notre projet.
Mais vous n'êtes pas que des doux rêveurs. On va voir ça tout de suite avec Marjorie Sparfel, parce que vous avez déjà envisagé un modèle économique bien précis qui s'appelle la société par action simplifiée. Est-ce que vous pourriez être un peu plus spécifique sur ce concept, Marjorie ?
Oui, bonjour. Concernant le choix de la forme sociétaire en l'espèce adéquate avec notre projet d'actionnariat populaire, l'association a fait le choix en collaboration avec plein de professionnels du droit, j'entends avocats, juristes, moi-même, de se tourner du coup vers la société par action simplifiée. Alors pourquoi ? Parce qu'en droit des sociétés, la société par action simplifiée présente l'avantage non négligeable d'associer les particularités des sociétés de personnes. J'entends des sociétés avec une grande liberté statutaire laissée aux créateurs de cette forme sociétaire et les particularités des sociétés de capitaux au sein desquelles les associés voient leurs responsabilités limitées au montant de leurs apports.
Est-ce qu'il y a déjà des exemples concrets de cette société par action simplifiée en France ou en Europe ? Ou est-ce que vous n'avez pas relevé ?
Il existe plein de sociétés par action simplifiées. Dans le domaine du foot, non, je ne crois pas. Mais oui, c'est une... Voilà, donc c'est une forme justement très utilisée par les avocats, parce que justement, il y a une grande souplesse. On peut vraiment faire pratiquement ce qu'on veut dans les statuts de cette société.
Jean-Jacques Darien, peut-être vous vouliez réagir ?
Moi, je voulais réagir par rapport au terme que vous avez repris là, de l'intervention de Joachim Lamert sur la moelle et je dirais même plus la moelle épinière. Je dirais si c'est simplement une moelle épinière qu'il faut avoir, autant supprimer. Donc, l'humain n'a pas besoin du cerveau, enfin, pour parodier une expression qui est bien connue. Et je pense qu'il faut aller plus loin qu'un problème de moelle. C'est un problème de sens à l'action d'un club. Et donc, moi, je terminerai sur ça en disant ce qui a été dit par Lucas Rondel, qui fait le parallèle avec le reste de l'économie. Je pense qu'on est à un moment de questionnement sur le reste de l'économie et le foot va être impacté automatiquement par ce questionnement également.
Merci Jean-Jacques. Consacrons désormais quelques secondes à la parution de la 17e revue de Sport et Citoyenneté, qui est consacrée au sport et aux discriminations en Europe. Cette revue trimestrielle est disponible sur adhésion, donc n'hésitez pas. Venez nous rendre visite sur notre site internet au www.sportetcitoyenneté.org. Nous allons passer pour conclure à l'agenda sport et citoyenneté, qui se résume en trois dates essentielles, donc le 24 janvier. Sport et citoyenneté organise un déjeuner-débat sur le thème « Favoriser l'émergence d'une identité européenne par le sport, réalité ou utopie ». Du 25 au 27 janvier, Sport et Citoyenneté participera également au lancement du projet Good Governance in Grassroots Sports, mené par l'ISCA, à Ljubljana en Slovénie. Et enfin, le 31 janvier, Sport et Citoyenneté participera au dîner-débat du club parlementaire Sport Économie Cité, les infrastructures sportives de proximité, clé de l'accès au sport pour tous.
Merci à tous et au mois prochain.
Sport à občanství.
Sport und Staatsbürgerschaft.
Euradio Nantes vous a présenté Sport et citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne. Pour plus d'informations et pour réécouter ce programme, rendez-vous sur euradionantes.eu.